Tu m'as fait le cœur. Hein.
Allons donc.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas, mais qui a du cœur.
Carré de roi.
Carré d'As, dommage.
Impossible, ma cinquième carte était un as.
Je déteste être accusé de tricherie, surtout quand je joue.
À présent, enlève ton costume. Nous allons continuer avec 52 cartes seulement.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur.
Allô, allô.
Chut, ça tourne.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la deuxième saison de Carré d'As, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur. Une émission préparée depuis un petit mois avec les volontaires en service civique du centre social et des fidèles des lieux.
On est en public ici, à la Vierge Noire, dans le centre social Carré d'As. Je suis Thomas et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, Mélissa et Cindy. Voici le programme du jour.
Aujourd'hui, on va s'interroger sur les futures élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020. On le fera à travers de micro-trottoirs réalisés en ville il y a quelques jours. Mais aussi avec Julien Stéphan, collaborateur de Madame le maire, Agnès Lebrun et Bernard Fouler, conseiller municipal, qui nous expliqueront comment l'élection s'organise à Morlaix.
Mais on vous fera aussi un topo sur les actions que les différentes listes qui se présentent voudraient mettre en place pour les jeunes s'ils sont élus.
Et nous recevrons Hervé Tanguy pour nous parler de la mise en place d'un projet original sur la commune.
Mais tout d'abord, direction les rues de Morlaix, où on a interrogé les habitants sur ce qu'ils attendaient d'un maire.
Qu'il s'occupe correctement de ses administrés et qu'il soit à l'écoute de tout le monde, surtout.
D'accord.
Bah, qu'il soit à la hauteur.
De l'honnêteté.
D'accord.
Qu'il s'occupe des administrés et qu'il fasse évoluer la vie de la commune.
Qui se préoccupe à la fois des plus jeunes, de toutes les tranches d'âge en fait, hein, pas simplement du club des anciens, ni des petits et des écoles, ouais. Mais que ça puisse convenir à toutes les tranches d'âge.
D'accord.
Qu'est-ce que vous attendez d'un maire ou d'une mairesse dans votre
ville ? Qu'il soit à l'écoute de...
Qu'il fasse ce que je lui demande. Non, ce qu'on attend, enfin, si vous voulez qu'on soit dirigé, qu'il fasse son travail.
Ouais.
C'est ça, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Et puis, bah, comme je vous disais un petit peu, je vais le transformer autrement, qu'il fasse ce que l'on souhaite.
De retour à Carré d'As pour cette émission spéciale, élection municipale, où l'on a voulu savoir concrètement comment s'organise une élection. Alors, il y a quelques semaines, on a interrogé dans la salle des mariages de la mairie de Morlaix, Julien Stéphan, collaborateur de la maire, et Bernard Fouler, conseiller municipal.
Bonjour.
Voilà, bonjour à vous.
Donc, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les dates des élections ?
Les élections municipales ont lieu tous les 6 ans. Donc, ça s'appelle un mandat qui dure depuis 2014. Et les prochaines élections auront lieu le 15 mars 2020. Et s'il y a un deuxième tour, ben, ce sera le dimanche suivant. Donc, 15 et 7, ça fait 22.
Comment est-on élu ?
Alors, en théorie, il y a 2 tours. Tout dépend du nombre de candidats, des scores au premier tour. Si vous n'avez qu'une seule liste ou 2 listes, normalement, il n'y a qu'un seul tour. S'il y a plusieurs listes, bah, tout dépend du score de la liste qui arrive en tête. Si la liste arrive en tête... S'il y a une liste qui arrive en tête au premier tour avec plus de 50% des voix, elle est élue tout de suite au premier tour. Il n'y a pas de deuxième tour. Et après, la répartition pour les autres listes se fait à la proportionnelle. Mais ce cas de figure-là est assez rare dans des communes comme de la taille de Morlaix.
On est élu en fonction du nombre de voix qui se sont portées sur notre liste. Si on a la majorité, on sera élu, ça c'est certain. Vous voyez, par exemple, en 2014, il n'y avait pas énormément de différence de voix. Il y avait entre les 2 et 300, je crois, de voix entre les 2 listes qui restaient au deuxième tour. Mais ça permet quand même d'avoir 25 conseillers qui sont dans la majorité et il y en a 8 dans l'opposition. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Celui qui arrive en tête, de toute façon, a la majorité des voix. C'est comme ça que ça marche. Et dire aussi que pour pouvoir se maintenir au deuxième tour, il faut quand même avoir eu un certain nombre de pourcentage de voix qui est de 10%. Si vous n'avez pas eu 10%, vous ne pouvez pas vous présenter au deuxième tour. Enfin, normalement, c'est comme ça. Il y aura aussi d'autres événements qui peuvent se produire. C'est par exemple des listes qui peuvent fusionner entre elles au deuxième tour. Enfin, on va prendre quelques-uns d'une liste pour les mettre sur une autre liste qui a peut-être plus de voix. Puis s'il y a possibilité de s'entendre, de s'accorder sur les choses principales, on peut le faire, ça existe. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez compliqué dans la réalisation, dans la mise en œuvre d'une liste. C'est qu'il faut 33 personnes dans une ville comme Morlaix, parce que c'est en fonction aussi du nombre d'habitants qu'il y aura plus ou moins de monde à mettre sur la liste. Et il y a un autre critère à prendre en compte là-dessus, c'est qu'on tient compte actuellement de la parité. Si vous remontiez à 20, 30 ans, même moins que ça, vous aviez, je ne sais pas, peut-être 3, 4 femmes qui se présentaient et les autres, c'était tous des messieurs. Aujourd'hui, un monsieur, une dame, un monsieur, etc. Ça se suit et c'est donc la parité qui... Comme on en a 33, ça ne peut pas être exactement un chiffre pair puisque 33 ne se divise pas par 2. Mais donc, il y aura pratiquement la moitié de personnes qui sont des hommes et l'autre partie qui seront donc des dames.
D'accord. Quels sont les moyens de communication que vous mettez en place pour les élections?
Alors, on ne met pas de moyens de communication particulière parce qu'il y a des groupes qui se présentent aux élections, des listes. Chacune des listes va se charger de faire effectivement elle-même sa propre communication, sa propre campagne, sa propre publicité. Nous, ce que nous avons à faire dans ce cadre-là à la mairie, c'est de mettre des panneaux à l'extérieur sur lesquels on va mettre un affichage qui ne sera pas un affichage complètement sauvage, mais où ce sera bien organisé, tel panneau, c'est tel groupe. Et puis la deuxième chose, c'est d'essayer de donner à chaque liste le même nombre de salles où ils puissent organiser des réunions publiques le soir, par exemple, ou dans la journée.
Et la communication porte aussi sur l'inscription aux listes électorales. On incite les gens à venir s'inscrire pour qu'ils puissent voter le jour des élections.
D'accord.
Combien de bureaux de vote il y a à Morlaix?
Il y a 11 bureaux de vote sur la commune de Morlaix.
D'accord. Et où se situe-t-il?
Alors, il y a 2 bureaux de vote ici à la mairie pour le centre-ville. Il y a 1 bureau de vote à l'école du Pont de Ben. Il y a 1 bureau de vote sur le site de l'ancien lycée de Kernegues pour les quartiers sud de la commune. Il y a 1 bureau de vote à l'école Gambetta. Il y a 1 bureau de vote à Plougeon, à la salle socio-culturelle. Il y a 1 bureau de vote à Trou-d'Oustin. 1 bureau de vote à la Madeleine. 1 bureau de vote à la maison de quartier Zoé-Puyot. 1 bureau de vote à l'école Jean Jaurès pour le secteur de la Boissière et 1 bureau de vote à l'école Jean Piaget.
D'accord. Combien de personnes sont inscrites aux élections?
Pour les élections municipales, ouais. Alors pour l'instant, il est un peu tôt pour donner le nom puisque la liste électorale n'a pas été arrêtée. Elle le sera dans le courant du mois de février. Pour à titre d'information, par exemple, pour les dernières élections municipales en 2014, il y avait 10 546 électeurs inscrits à Morlaix. Et pour les élections présidentielles et législatives de 2017, il y en avait 10 380. C'est pour vous donner un ordre d'idée, on est à un peu plus de 10 000 électeurs inscrits à Morlaix, entre 10 000 et 10 500.
Bon bah c'est tout, merci beaucoup.
Eh bien écoutez, c'était un plaisir pour moi de vous avoir reçu ici en mairie à la salle des mariages, qu'on appelle la salle maintenant Ange de Guernizac, parce que c'est un monsieur qui a fait des dons à la ville de Morlaix, dont une bibliothèque, un théâtre, et puis à qui on a donné le nom de cette salle des mariages parce qu'il la méritait bien. Voilà, ben merci à vous.
Merci.
Les élections municipales ont lieu le 15 et 22 mars 2020 et vous avez eu jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. On poursuit cette émission en public ici au Caredas, un peu de musique, et puis on retrouve Hervé Tanguy, créateur du jardin partagé par Clawen.
Écoutez Caredas, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur, et on reçoit tout de suite Hervé Tanguy, créateur du jardin Parc Laouen. Bonjour Hervé, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, dire qui vous êtes ?
Oui, bah c'est difficile de dire qui on est. Est-ce qu'on sait vraiment qui on est ? Voilà, je dirais dans un tout premier temps que je suis ému d'être ici. Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui ont souhaité que je sois là personnellement. Un grand merci pour ça. Ça me touche, cela. J'ai 73 ans. Il y a 5 ans, mon épouse, qui était bien plus jeune que moi, elle est partie rejoindre les Hirondelles. Et à ce moment-là, mon fils m'a invité à venir plutôt dans une ville que de rester en pleine campagne. Et j'ai choisi Morlaix, et je ne l'ai jamais regretté. Morlaix, c'est une ville que j'adore. Je me trouve dans une rue où les voisins sont vraiment très agréables. Ça va au-delà des bonnes relations de voisinage. J'ai 73 ans. Ça veut dire un âge où on revient un petit peu sur tout son passé. Et voilà, et je retrouve des constantes. C'est une façon de dire qui je suis. J'ai toujours été intéressé par la rencontre des gens et le fait de rencontrer des gens, de chercher à les connaître et aussi parfois de les accompagner.
Pouvez-vous nous parler du jardin partagé Parc Laouen ? Comment est né ce projet ?
Alors, ce projet est né il y a 2 ans et demi à peu près. Nous étions à 2 ou 3. Je ne sais pas exactement d'où est partie l'idée ni comment. Bon, il y avait un contexte particulier où je discutais avec des gens d'action citoyenne, c'est-à-dire l'idée qu'il ne suffit pas de tirer des plans sur la comète, de refaire le monde, mais qu'il était extrêmement important d'avoir des actions collectives, faire des choses avec les autres, sinon pour les autres parfois. Mais l'idée de faire les choses avec et ensemble était quelque chose d'essentiel. Et puis, des 3 personnes du début, nous en sommes actuellement à une 30aine, voire une 40aine d'adhérents, dont une 15aine de personnes qui travaillent très régulièrement sur le terrain. Cette activité présente un avantage évident. C'est que lorsque on travaille sur un terrain, lorsqu'on travaille la terre, tout se passe beaucoup mieux que dans d'autres milieux. Voyez, c'est-à-dire depuis 2 ans et demi que le jardin fonctionne, il n'y a jamais eu un conflit sur le terrain. Je pense que ça tient au fait de faire des choses ensemble, des choses intéressantes. Voilà. On s'est retrouvés très vite sur des valeurs communes. Des façons de faire qui étaient des façons de faire communes. Voilà. Donc, c'était notamment les jeunes des services civiques qui sont venus, mais c'est également, par exemple, James, qui est arrivé dans des conditions très précises, je le vois encore. C'est une assistante sociale qui m'avait appelé et qui demandait si un jeune en situation plutôt difficile, un problème, disons, de psychologique, pouvait venir sur le terrain. On lui a répondu oui, tout de suite, et on va le chercher depuis 1 an et demi, régulièrement chez lui, hein, puisque sa mère n'a pas la possibilité de l'y conduire, elle est non-voyante. Voilà. Donc c'est l'aspect social qui, petit à petit, se développe. Et il s'est constitué, en fait, une sorte de... Alors, quel terme utiliser ? Le mot communauté n'est pas juste, mais quand même des liaisons très étroites entre toutes les personnes qui sont là. Et ça se manifeste pratiquement tous les après-midi vers les 16h, lorsque nous allons dans notre cabane prendre un petit café ensemble. Alors je vois par exemple, il y a Yvette qui est là devant moi, qui nous fait parvenir. Yvette, c'est notre doyenne au jardin partagé, elle a 80 ans, et qui arrive avec des gâteaux, par exemple. Voilà. Mais c'est le cas d'autres personnes qui arrivent aussi avec des gâteaux qu'ils ont préparés, enfin, etc. Donc il y a l'aspect social, l'aspect de convivialité, qui paraît assez évident. Et ça, je me rends compte, c'est très difficile de le dire, hein, pour que ce soit compris. Et du coup, j'invite toutes les personnes qui ont la possibilité de venir sur le terrain, venir à notre rencontre, de venir prendre le goûter ensemble, etc. Je crois que c'est cela la meilleure des choses.
Et Hervé, dites-moi, qu'est-ce qui pousse dans ce jardin ?
Alors, pousse ce qu'on a planté. Et ça, on ne le sait pas à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, demain ou après-demain, tel ou tel peut arriver avec de l'ail, va planter de l'ail. La semaine d'après, ce seront des échalotes, par exemple, ou encore des salades, etc. Vous voyez, il n'y a pas de plan d'occupation des sols. Ça se fait à la bonne franquette. Et ça marche. C'est ça qui est étonnant. Donc, sans qu'il y ait vraiment de, je disais tout à l'heure, de chef, etc., chacun arrive avec ses idées, ses propositions. Et on a été surpris de voir aussi que beaucoup de voisins arrivent sur le terrain et nous proposent des plans, voilà, qu'ils ont en trop. Voilà. Donc, il y a toute une vie de quartier qui est en train de renaître et c'est le langage qu'utilisent les voisins eux-mêmes. Ils disent, depuis que vous êtes là, on a le sentiment que le quartier revit.
Et qu'est-ce que vous faites, du coup, de la production ?
Alors, ce qui est planté va être récolté par les jardiniers donc, tous ceux qui ont travaillé repartent avec des légumes. Il se trouve que la réflexion nous a été faite souvent, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas certains qui repartent avec beaucoup plus que d'autres, etc. Eh bien, de façon étonnante, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a une sorte d'équilibre qui se fait, une sorte aussi de responsabilité des uns et des autres, et une attention en particulier est prêtée aux personnes qui sont dans les situations les plus difficiles.
Comment fait-on pour demander à la mairie un bout de terrain à la ville ?
Alors, ça, c'est tout l'historique des jardins Parc Lavoine. La première chose qu'on a faite lorsqu'on a créé notre association, c'était d'aller à la mairie. On a rencontré Marie-Simon Galouédec, en charge de l'action sociale. On a rencontré Jean-Charles Pouliquin, qui est chargé du développement durable. Et on leur a posé la question de savoir s'il y avait un terrain que la mairie pouvait mettre à notre disposition. Donc, il y a eu deux propositions qui ont été faites. Et puis finalement, on a décidé de louer un terrain à une propriétaire privée parce que l'emplacement nous était important. Nous avons fait le choix d'implanter les jardins Parc Lavoine dans les quartiers nord-est de Morlaix, c'est-à-dire les quartiers qui sont les quartiers de Kerfraval, de la Bossière, de la Vierge Noire, de la Madeleine, c'est-à-dire des quartiers qui ne disposent pas d'un jardin personnel. Et donc, ce choix, disons, de s'établir dans les quartiers nord-est de Morlaix, c'était quelque chose d'important. Donc, c'est extrêmement facile, de rentrer en contact avec la mairie. Il suffit de prendre rendez-vous et puis de poser la question. Et puis, donc, la réponse avait été favorable. Mais on l'a déclinée pour les raisons que je vous indiquais. C'est que l'endroit présenté ne correspondait pas en définitive à nos objectifs.
D'accord, très bien. J'ai une toute petite dernière question. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez en priorité à Morlaix ?
Alors, une baguette magique, elle ne serait pas si magique que ça, parce que quand c'est une baguette magique, on laisse entendre que c'est quelque chose qui est a priori impossible. Or, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et souhaitable. Mais ça suppose que les différentes personnalités, les différentes listes qui sont en présence en vue des municipales se disent « c'est super ce projet, on y va ». Alors on va dire « ça coûte cher », certes, mais c'est un projet qui peut être extrêmement important pour la vie de Morlaix. Dans la mesure où ça joue à la fois sur le social et l'écologique. Donc, la baguette magique, c'est quoi ? C'est Madame le maire, Monsieur le maire, est-ce que vous êtes prêt à acheter les bâtisses qui sont au Petit Launay ? Voilà, question simple. La réponse sera peut-être plus compliquée. Alors, vous vous rendez compte, ce hameau de Morlaix, qui était à l'origine une ferme et accueillant des personnes autres qui travaillaient dans le manoir d'à côté. Donc, disons, une ferme qui a été démembrée, qui pourrait devenir aujourd'hui une ferme auberge et pédagogique. Enfin, vous voyez, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup pour voir la portée de tout cela, avec des animations, avec un restaurant, les légumes venant du jardin Parc Lavoine, bien sûr, des animations, un lieu de restauration, voyez. Mais rendez-vous compte, la possibilité pour des gens à ce moment-là qui sont sur le plateau, Je ne sais pas si le terme que j'utilise est satisfaisant, mais enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Des personnes qui se trouvent, et nous avons des échos dans ce sens-là, qui se retrouvent sans possibilité. Je ne sais pas, alors on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Ben, on entend beaucoup de personnes des quartiers qui disent, ben voilà, on reste chez nous, hein, on n'a pas d'argent pour aller en ville, au restaurant, enfin, etc. Et juste à côté, à ce moment-là, il y aurait cette ferme auberge et pédagogique qui pourrait être un lieu vraiment d'animation et des animations qui seraient du coup gratuites et fonctionnant sur la base du bénévolat. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Baguette magique, c'est ça, Madame le maire ou Monsieur le maire. Allez, vous le faites dans combien de temps, hein ? Dans combien de temps vous achetez ces bâtisses ? Alors, vous voyez... j'avais pas du tout prévu de dire ce genre de choses. C'est vrai que c'est très direct, mais ça a l'avantage, je crois, d'être concret, d'être audible. Voilà. Et la seule préoccupation dans ce cas-là, c'est être vraiment au service des habitants et des plus fragiles. Voilà.
Merci beaucoup, Hervé. Nous, on continue à balader notre baguette magique. Car on a posé la même question aux habitants dans les rues de Morlaix. Vous feriez quoi en priorité si vous étiez maire ?
Bah, qu'il y ait plus d'animation pour les jeunes et un peu plus de gaieté au niveau architecture.
On pourrait mettre plus de bus parce que les lignes c'est un peu chiant à des moments, puis ça sert pas partout. Puis avec les communes à côté, enfin mettre plus de bus avec les communes à côté aussi, parce que ça, des fois, c'est un peu chiant quand on a un bus toutes les heures et que ça arrête à 18h. Bon. Mettre plus de trucs conteneurs pour le verre et pour le recyclage un peu plus partout pour que ça soit pas obligé de marcher un quart d'heure chaque fois avec les sacs.
La rente plus moderne.
Et peut-être la sécurité aussi à Morlaix. Ça pourrait être pas mal aussi. Il y a eu pas mal d'agressions ces derniers mois, donc... C'est pas mal de peut-être changer un peu plus la sécurité, qu'il y ait plus de rondes au niveau des policiers.
Eh ben, des échanges avec justement les pays étrangers, au niveau sportif, culturel.
Eh ben, je mettrai des bus le dimanche.
Qu'il y ait plus d'animation dans le centre-ville.
Oh, je sais même pas. Moi, je pourrais pas être maire. Mais vas-y, il y a plein de trucs à faire, ouais. Il y a rien pour les jeunes.
C'est vrai, c'est vrai.
On vient d'écouter le maire de Niafunke par Ali Farka Touré et Toumani Diabété. Et on continue notre balade dans les rues de Morlaix à la rencontre des habitants pour savoir ce qu'ils feraient s'ils étaient maires.
Je viens d'arriver, ça fait un an qu'on est là, donc c'est une ville que je connaissais avant, mais... Ah là 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 là, aider le centre-ville à être revitalisé.
Par exemple, les inondations, il faudrait qu'ils fassent quelque chose.
Et puis qu'il y ait une vie culturelle encore plus importante, parce que la culture, ça aide aussi les gens à se rassembler.
Que ce soit un peu ouvert, quoi, qu'il y ait un peu plus de mixité sociale.
Peut-être plus d'associations pour les jeunes, pour faire plus d'activités, plus diverses, plus variées. Et puis autrement, continuer à embellir la ville. Et on parle depuis longtemps de la remise en marche du tunnel entre la ville basse et la ville haute, le tunnel du funiculaire. Ça serait une belle réalisation.
Instaurer des poubelles de tri collectif qui restent en place et qui permettent aux gens de toujours savoir où, quoi mettre et où les mettre. Et puis donner des aides aux commerces pour qu'ils restent ici et qu'ils ne s'éloignent pas dans les zones extérieures.
La météo, ça compte ou... Pour les ça élections, non. Non, oui, les parkings, tout ce qui est accessibilité, si ça pouvait changer d'un coup de baguette, ce serait magique. Je pense aussi au port de Morlaix qui n'est pas du tout mis en valeur et qui pourrait être plus mis en valeur.
Le bonheur et la jeunesse pour tout, et la santé pour tout le monde.
D'accord.
Voilà.
Merci.
Ce
sera tout.
Et maintenant, on reçoit Marion et Thomas Jean-Marie qui vont nous présenter ce que feraient les différents candidats pour la jeunesse s'ils étaient élus.
Alors, on a mené une enquête auprès des 4 listes principales auxquelles on a demandé 3 actions pour les jeunes. Tout d'abord, Jean-Philippe Babsérès de Morlaix avec vous. Son axe principal est d'aider les jeunes à monter leurs projets. On peut leur donner un budget et les aider à mettre en place leurs projets. Ensuite, créer plus de lieux de rencontres pour les jeunes, à l'exemple du 2D. Ces lieux devront être faciles d'accès pour que les jeunes puissent s'y rendre plus facilement. Enfin, il faut laisser la jeunesse s'exprimer. Pour ce faire, on pourrait créer un festival l'été pour les jeunes, pourquoi pas au kiosque.
Jean-Paul Vermont, de Morlaix Ensemble, crée une création d'une commission extra-municipale jeunesse ouverte aux jeunes, pour permettre ainsi le débat et la construction de projets avec les élus municipaux, le développement d'une offre de logements accessibles aux jeunes sur la ville et une organisation d'une manifestation annuelle pour les jeunes construite avec les jeunes.
J'ai rencontré Marie-Simon Galouédec, élue à la jeunesse de Morlaix. Tout d'abord, il faut faire une analyse des besoins sociaux des jeunes. Ensuite, pourquoi ne pas réaménager les locaux de la Salamandre pour en faire un lieu culturel pour les jeunes? Enfin, mettre en place un endroit pour que les jeunes puissent se retrouver et travailler ensemble.
Jean-Pierre Cloirec, de Morlaix Alternative Citoyenne, souhaite une création d'une carte citoyen dès l'âge de 16 ans pour leur permettre d'agir, une création d'un réseau de bus gratuits et mieux cadencés, et une intégration des jeunes dans les commissions de projet.
C'est la fin de cette première émission de la saison 2 de Carédas, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur.
Merci à tous ceux qui se sont engagés dans ce beau projet. Merci à tous nos invités. Merci au public ici, présent à Carédas.
Et merci à Radio Nord-Bretagne de diffuser cette émission. On se retrouve le 26 mars prochain pour la seconde émission de l'année. À bientôt.
C'était très bien.
Oh, bien là. Alors je vois plus grand que j'en fais. À moi il me prend le cœur, à toi il te fait rire.
Oh, très bien. Tu as l'air.